Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International en cette fin d'après-midi où nous parlerons Ligue des Champions avec le retour des demi-finales. Ce soir, pour commencer, Villarreal, Liverpool, les hommes de Jürgen Klopp débarquent à la Ceramica avec 2 buts d'avance. Mais le tacticien Unai Emery pourra-t-il renflouer le sous-marin jaune? Un défi pour ce petit club d'une petite ville du sud de l'Espagne. Une 10e finale de Ligue des Champions pour l'OL. Les filles, donc, les Lyonnaises, reprennent leurs bonnes habitudes en écartant le PSG, pourtant encouragé par tout un stade. D'où vient la force et la régularité de l'OL? En Italie, les Milanais entretiennent le suspense dans le calcio. Les deux peuvent toujours prétendre au Scudetto, alors que derrière, Naples et la Juventus de Turin ont assuré leur place en Ligue des Champions en espérant mieux l'an prochain, sans doute. Bonjour Eric Rabessandratana.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Tout va bien?
Oui, ça va, très bien.
Oui. Ouais. Vous avez encouragé les filles du PSG? Vous étiez dans
J'étais
les 43
000. J'étais dans le stade, ouais, c'était magnifique. Franchement, en termes d'ambiance, c'était super bien. Ouais,
mais les ultras étaient moins muets.
Ah, c'était extraordinaire. d'où un petit peu le regret de ne pas les voir comme ça, avec, même en comprenant la situation, c'est quand même dommage.
C'était en demi-finale quand même. Bonjour Dominique Sévrac.
Bonjour, on avait oublié ce que c'était qu'un stade qui chante, en tout cas le Parc des Princes.
Bon ben voilà, au moins vous avez assisté à ça ces derniers jours. Bonjour Monsieur Philippe.
Bonjour Madame Annie.
Bonjour Philippe Doucet, tout va bien?
Oui, moi j'étais à Charlity, ça chantait pas beaucoup.
Oui, c'est vrai. C'est un peu, mais il y a moins de monde.
Il y avait moins de monde aussi. Ouais.
Rappelons qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Un jour pour saluer notre confrère Olivier Dubois, otage au Mali depuis pratiquement 13 mois. Excusez-moi. Ici, on ne vous oublie pas, notamment à Avignon, où votre portrait, Olivier Dubois, figure sur l'hôtel de ville, rappelant que vous êtes un ancien élève du lycée Frédéric Mistral. Radio Foot, c'est parti.
Jordan Henderson, le capitaine de Liverpool. Salah avec Sadio Mané, il n'y a pas de position de hors-jeu. Liverpool est en feu, ça y est, Sadio Mané.
Allez, de la musique de Villarreal, ce club qui a bien 2 buts de retard, mais ils ont encore la possibilité de disputer la finale de la Ligue des Champions, en ligne de mire bien sûr de la soirée. Et il veut y croire, Unai Emery, cet entraîneur espagnol, tacticien, magicien, n'est-ce pas Frédéric? Dominique, c'est vrai que...
Je ne vous fais pas dire, Annie.
Qui a le don, en tout cas, d'insuffler à ses joueurs l'envie de se surpasser dans un match, et notamment européen. Ce soir, devant leur public fidèle et bruyant de la Ceramica, Villarreal compte bien remonter son handicap, même face aux Reds de Jürgen Klopp. Unai Emery l'assure.
Nous sommes très excités, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. On a joué 90 minutes là-bas contre cette super équipe de Liverpool, devant son public. Ils étaient meilleurs, on ne va pas le contester, mais on a réussi à bien défendre. La différence de but aurait pu être plus importante. Maintenant, c'est à notre tour de les recevoir. Et même s'ils seront favoris, on est, je le répète, très excités et prêts mentalement pour disputer cette rencontre.
Unai Emery, Eric Rabessandratana, rappelons-le, quand même victime d'une célèbre remontada, pourra-t-il, selon vous, ce soir être le chef d'orchestre d'une, allez, on va dire, demi ou semi-remontada face au talent des Reds et à leur jeu qu'il a lui-même qualifié d'asphyxiant?
Ouais, c'est plus compliqué, je pense, parce que là, voilà, les Reds, entre expérience et puis maîtrise, la maîtrise qu'on a vue au match aller, hein, vraiment, là, ils ont quand même dominé ce match du début à la fin. Donc, J'ai du mal à croire. Alors, ce sera pas le même match parce qu'il y aura peut-être un peu plus de jeu du côté de Villarreal. Je pense pas que ce sera le même match, mais par contre, voilà, j'ai du mal à croire que Villarreal sera capable de mettre 3 buts et que le Liverpool n'en mettra,
c'est ça,
n'en mettra pas.
2 buts, c'est le minimum pour aller au prochain.
J'allais dire et que Liverpool n'en mettra pas, c'est ça surtout. Parce que voilà, donc je donne peu d'espoir. Maintenant, je pense qu'on verra un autre match, c'est-à-dire qu'on verra un Villarreal plus intéressant et plus embêtant pour Liverpool.
Alors Villarreal, Dominique, ils ont quand même accrocher dans leur armoire les scalps du Bayern Munich et de la Juventus.
C'est sur
d'abord
ça
la Juventus en huitième et du Bayern en quart.
C'est sur ça qu'il faut qu'ils s'appuient pour se dire que c'est possible. Après, c'était des matchs à chaque fois où ils avaient préservé le score au match aller. Et je pense que ça les avait nourris pour le match retour, pour y croire à l'espoir là.
Et garder une mince avance, hein, comme sur 1-0.
Et on pensait tous, en tout cas moi, je pensais que le Bayern allait un peu les exploser, entre guillemets, au match retour.
Ils avaient promis.
Ouais, mais ils n'ont pas respecté, c'est pour ça.
Et finalement, exactement, ils ont été arrogants. Mmh. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Là, j'ai bien peur que autant ça s'est pas vu contre la Juve et contre le Bayern, mais j'ai peur qu'il y ait une classe d'écart. Vraiment, j'ai peur que Liverpool soit injouable. J'ai peur que ça soit la meilleure équipe d'Europe avec City et la meilleure équipe du mental d'Europe, c'est le Real Madrid.
Pardon. Pourquoi peur?
Pour eux.
D'accord.
On verra. Villarreal.
Philippe, on se tient les petits.
Parce que les Anglais, ça leur fait pas peur.
Et moi, je compatis avec Unai Emery.
Ils ont pas ce complexe.
J'ai un amour de Unai Emery.
Oui, c'est vrai que tu es très proche d'Unai Emery.
J'ai un amour de Unai Emery. Je défends les petits. Tu sais bien, les petits. Ils sont en jaune comme Guignon, donc forcément, on les soutient, quoi. Et donc, j'ai bien peur. Pour eux, évidemment.
Les forgerons de la céramique.
C'est ça.
Et Liverpool,
ils étaient en finale il y a 3 ans, en 2019, contre le Tottenham de la Ligue des Champions. Ils l'ont remporté à ce moment-là. Puis ils étaient aussi en finale l'année d'avant. Ils avaient perdu contre le Real Madrid. Mm-hmm. Je ne dis pas que l'espérance, ça joue, mais tout est réuni pour que Villarreal, malgré un match courageux, n'arrive pas à décrocher. Ne serait-ce qu'une prolongation de 0, ça serait déjà un espoir pour moi.
C'est pourtant une équipe qui peut embêter son adversaire. On l'a vu à Munich. Alors évidemment, les Munichois ce jour-là n'étaient pas dans un grand jour puisqu'ils finissent par se faire éliminer. Mais c'est vrai que on sent quand même une équipe extrêmement bien rodée à un certain type de jeu, Philippe.
Oui, mais ça peut être, c'est un atout évidemment considérable parce que c'est une équipe vraiment, c'est une vraie équipe, disons-le. Par contre, son handicap, Dominique vient de le situer, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a besoin d'être devant. C'est une équipe qui a besoin de gérer ce qu'elle a su faire quand elle avait des buts d'avance au match aller ou un match nul au pire, mais là, c'est une situation extrêmement délicate. C'est-à-dire qu'il faut être capable de mettre du rythme, ce qui, contre Liverpool, quand même, est une énorme performance. C'est-à-dire les dépasser en rythme, ça paraît assez difficile, ça paraît très délicat. Techniquement, c'est possible. Manchester City est capable de le faire. En rythme, ça paraît extrêmement difficile. Et en ce sens-là, je vois mal Villarreal dans ce type de scénario. Même si la Ligue des Champions nous offre des scénarios incroyables. Mais c'est vrai que là, pour eux, je pense que c'est le schéma le plus difficile, remonter des buts. Regardez, depuis le début de la qualification, Gérard Houllier disait toujours le match le plus important, c'est le match aller. Et quand on regarde les résultats, il a raison. Les remontadas, c'est extrêmement rare, en fait, dans la réalité.
Il faut qu'il y ait le PSG, c'est tout.
S'il n'y a pas le PSG, ça n'existe pas.
Dès que le PSG est éliminé, il n'y a plus de remontada.
Non, mais il n'y en a quasiment pas.
Le PSG est là pour ça.
Liverpool en avait fait une contre Barcelone. Donc on se souvient quand même.
Ça arrive de temps en temps.
Là, si Villarreal le fait, on pourra appeler ça une vraie remontada parce que ce sera exceptionnel.
Et le Tottenham de Pochettino, c'est une remontada à l'Ajax. Ils avaient mené 3-0 avec un 3-3, avec un triplé de Lucas. Mm-hmm. Ça aussi, c'est parfois la magie de la Ligue des Champions. Il y a un homme qui surgit de nulle part, qui vous met un triplé, qu'on n'avait pas vu venir. Ouais, et ça change.
Mais c'est aussi des scénarios exceptionnels.
Mais qui se répètent.
Il n'y en a pas beaucoup. Globalement, le schéma habituel, c'est vous gagnez à domicile, vous gagnez le match aller, vous êtes qualifié derrière. On verra si le Real est capable de l'inverser, pour le Real, ce sera difficile.
Tu as vu avec Real Chelsea que malgré la performance du Real à l'aller, va mettre 3 buts à Chelsea,
tout d'un coup,
le Chelsea peut se permettre de gagner 3-0.
Non, mais on a des exemples. Heureusement qu'il y en a des exemples de remontada, mais il n'y en a pas tant que ça.
Mais elle reste irrationnelle, cette épreuve.
Quand il y a un but à remonter, on ne parle pas non plus de remontada.
Ah non, mais là c'est 2 là. 2 et 3 pour se qualifier.
Donc oui, là, c'est exactement. C'est pour ça que je disais au moins une demi-remontada, mais je faisais allusion à autre chose aussi.
Non, mais après, sur l'efficacité de Liverpool, C'est pour ça que j'y crois pas trop, parce que je pense qu'en termes d'efficacité,
ils n'ont pas perdu.
Ils n'arrivent pas à marquer.
Salah, ouais, j'ai du mal à croire.
Ils n'ont pas perdu de match par plus de 2 buts d'écart cette saison, en plus. Donc c'est quand même quelque chose.
Ils en ont perdu 2 ou 3, alors évidemment.
Non, mais surtout,
je crois 3 de la saison, Liverpool.
Oui.
Surtout que le scénario veut qu'ils attaquent quand même. Donc ça veut dire que Liverpool va profiter de l'espace derrière.
Alors, Unai Emery disait il nous faudra faire le match parfait ce soir, évidemment, puisqu'il faut seulement marquer, mais en plus ne pas encaisser. Mais pour les Reds, on peut peut-être se poser une question, c'est est-ce qu'ils sont à la limite physique, puisqu'ils sont prêts à souffrir, dit Klopp, mais pas forcément en jouant et en attendant devant les buts. En tout cas, Jürgen Klopp, toujours d'attaque pour ce match.
On est à la mi-temps. La meilleure chose à faire, c'est d'oublier le match aller. Malheureusement, la qualification ne se jouera pas sur une seule rencontre. Donc, on va essayer de s'imposer à nouveau. Alors qu'on sait très bien qu'ils vont tout faire pour nous renverser. On doit s'attendre à ça.
Oublier le match aller. Comment on peut oublier le match aller quand on a 2 buts d'avance, Dominique ?
Oh, ça, c'est ce qu'on dit pour maintenir son groupe sous pression et qu'il n'y ait pas de...
Il y aura théoriquement le retour de Gérard Moreno, leur buteur
quand on est le plus
du
fort,
côté de Villarreal.
Quand on est le plus fort, la tendance naturelle, c'est un peu de croire que les choses sont acquises avant qu'elles se soient déroulées. C'est un peu ça le problème de Liverpool. C'est le classique cliché en football. L'ennemi d'eux, c'est l'équipe elle-même. L'ennemi de Liverpool, c'est Liverpool ce soir. Certes, il va être Villarreal va être vaillant, tout ça, mais la catastrophe ne peut arriver que si Liverpool n'est pas au niveau de Liverpool. Parce que si c'est le Liverpool qu'on connaît depuis le début de saison, en fait, il y a quasiment aucune chance pour Villarreal.
Est-ce qu'il pourrait oublier le match aller et l'emporter 2-0 match retour encore?
Oublier le match aller. Non, après c'est un autre match. Donc ils vont arriver pour jouer un autre match, ça c'est sûr. S'ils ne vont pas rester à se dire on a deux buts d'avance, ils ne vont pas arriver en disant ça.
L'ambiance un peu chaude de la Ceramica.
Ah, ils viennent dans le field. Ils viennent de chez eux.
Non, moi, après... Je ne suis pas sûr qu'ils sortent complètement Liverpool. Ils n'ont pas non plus besoin de sortir comme ça. Donc, ils peuvent attendre un petit peu, même si leur tempérament, c'est de jouer. Ils ne sont pas obligés de partir à l'abordage non plus. Mm-hmm. C'est pour ça que... En termes d'énergie, je ne suis pas sûr qu'ils mettent toute cette énergie-là au départ dans le match. Mais après,
ils seront...
Mais en tout cas, non, je pense que voilà, ils vont jouer très sérieusement ce match. C'est pour ça que je suis pas très, très inquiet pour Liverpool.
Je m'attends un peu à ce que, je ne sais pas si vous vous souvenez du Lille-Chelsea retour. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une classe d'écart. Ils étaient menés 2-0 et Lille avait essayé. Ils avaient marqué en premier. On s'est dit, finalement, 50% du chemin. Et à partir du moment où Lille a marqué, le vrai Chelsea est revenu.
C'est mis en route.
Et là, c'était terminé. Et ils ont gagné finalement Chelsea à Lille. Et donc,
mais Villarreal est quand même une bien meilleure équipe que Lille. Faut pas l'oublier.
Mais Liverpool est bien meilleur que Chelsea.
C'est vrai aussi. Mais il n'y a pas le même écart.
Quels sont les ressorts que possède Villarreal, selon vous, Philippe ?
D'abord, un collectif vraiment de très bonne qualité. C'est du très bon travail, comme Dominique l'a souvent loué.
On va dire pas des stars, mais des personnalités.
Oui, des personnalités. Oui,
il
ne
peut pas
y
avoir de stars,
Oui, bon, c'est même... Non, mais de toute façon, à Villarreal, il ne peut pas y avoir de stars à Villarreal, de toute façon. Mais il y a des très bons joueurs. Gérard Moreno est un très bon joueur. Mm-hmm. Albiol, c'est solide. Pau Torres, c'est un très bon défenseur central qui a fait... Il a fait tout l'Euro, ou je me trompe ? Il était titulaire tout l'Euro, non ?
Il me semble.
Eric Garcia, il me semble, de mémoire. Donc voilà, c'est une équipe qui est globalement est bonne à peu près à tous les postes, mais sans cador exceptionnel. Et moi, ce que j'attends, c'est de voir s'ils sont capables de mettre du rythme. C'est pas la caractéristique de cette équipe. Hein. Il y a Parejo,
ils savent jouer, mais le rythme.
Coquelin, etc., sont capables un peu d'arquer,
de travailler.
Capou, Coquelin, etc. Mais le style général de cette équipe, c'est plutôt technique, plutôt attentiste, plutôt très intelligent. Mais est-ce qu'ils peuvent battre Liverpool à ce jeu-là? On peut avoir des doutes, mais après tout, pourquoi pas surprendre Liverpool autrement, dans un style différent.
Je dis, Philippe, qu'il n'y a pas de star, parce qu'en fait, Unai Emery, le problème pour moi, c'est que quand il y en a, ça ne marche pas. En fait, à Paris, alors après, il y a d'autres problèmes à Paris, et Arsenal, avec Aubameyang, avec Lacazette, c'est-à-dire, en plus, c'est des ministères. Hein, là, on ne parle pas de Neymar ou de Cavani ou de Mbappé.
Mais, pourquoi le PSG tout le temps?
Non, mais parce qu'on l'a vu ailleurs, et dès qu'il y a une star, lui, il dit les joueurs, c'est des X. Il ne veut pas savoir qui il a, il veut entraîner des X. Et moi, cette philosophie-là, je pense qu'elle ne peut s'appliquer que dans des clubs de la dimension de Villarreal, de Séville. Et c'est pour ça que pour moi, il ne peut réussir que dans ces clubs-là. Et c'est même bah, pas que pour
il
moi.
Il réussit plutôt bien. Hein. Il a une finale en vue de Ligue des
déjà,
Champions.
Il a 4 Ligues Europa. Donc c'est pas une honte. Mais je vois que le Real Madrid ne l'appelle pas. Je vois que le Bayern Munich ne l'appelle pas. Je vois que Manchester City ne l'appelle pas. Donc visiblement, on n'est pas.
Le PSG l'a fait. Peut-être que. Et Arsenal, ça, malheureusement, ça peut aussi jouer contre lui.
Je pense qu'il c'est
en
un entraîneur qui réussit s'il n'y a pas de star. Je pense que c'est important. Au Real Madrid, ça serait un problème.
On verra la suite de sa carrière. Les choses peuvent changer. Mais
ça peut lui servir d'expérience.
Au jour d'aujourd'hui, effectivement, il n'est pas considéré comme dans les top entraîneurs, même si on a évidemment de la considération pour tout ce qu'il a fait, mais il n'est pas considéré comme un top qui est contacté par les grands clubs. Mais peut-être que cette demi-finale en Ligue des Champions peut quand même changer le curseur.
C'est 3 victoires en
Ligue Europa. Parce que jusqu'ici, il n'avait pas été jusque-là.
Non, mais à l'époque, les 3 victoires en Ligue Europa avaient fait que le PSG l'avait appelé. Et là, on peut se dire, avec en plus une Ligue Europa et en plus peut-être cette expérience de demi-finale.
C'est énorme d'avoir éliminé la Juve et le Bayern, c'est énorme.
J'ai dit, Unai Emery a besoin d'une équipe qui soit au service de ce qu'il propose comme tactique ou comme jeu. C'est ça qu'il a besoin surtout.
Mm-hmm.
Et
de ses principes.
Avec les grands joueurs, c'est presque lui qui doit se mettre au service de ses grands joueurs. Et c'est compliqué en fait. L'inverse est très compliqué.
C'est ce qui s'était même passé au Paris Saint-Germain, on le sait.
Absolument, c'est pour ça que là aujourd'hui, quand on voit sa réussite avec Villarreal, c'est complètement normal en fait. Mm-hmm. Parce que c'est un entraîneur de qualité qui est capable de faire jouer des joueurs avec peut-être moins de notoriété.
Mais il surperforme quand même. Parce que c'est normal. Mais c'est
quand
même pas
normal.
C'est quand même pas normal d'avoir aligné le Bayern. Le Bayern de Nagelsmann et de Robert Lewandowski, c'est pas normal. C'est pas normal dans le sens que c'est un espoir.
C'est normal parce que lui a respecté les choses, son équipe a respecté les choses et les équipes en face n'ont pas respecté. Et finalement, c'est normal en fait qu'ils soient là parce qu'ils ont fait le parcours qu'il fallait, ils ont eu l'état d'esprit qu'il fallait pour arriver jusque-là. Donc oui, c'est vrai que si on prend sur le papier, le Bayern et la Juve ne doivent pas se faire éliminer par Villarreal, sauf que le football, c'est sur le terrain.
Serge Aurier qui est venu se relancer en quittant Tottenham pour se relancer à Villarreal, c'est plutôt une réussite, Dominique ?
Ouais. En plus, il est arrivé pas au début de l'aventure et c'était un joueur qu'on avait un peu perdu de vue parce que Tottenham... Il avait perdu sa place, il n'y a pas vraiment de saison régulière,
à part peut-être la
première. Et moi, je l'ai revu, notamment à Marseille, dans un match de la Côte d'Ivoire. Il est super fort, en fait. Il est très, très bon.
Mais de toute façon, il a toujours été très fort.
Mais
Aurier,
à Tottenham, c'était un peu injuste, en fait.
Mais en fait,
c'est Périscope qui va lui rester. Quoi.
Exactement. Et puis, sa mentalité, voilà.
On a besoin d'avoir.
Mais c'est un très bon joueur. Physiquement, il est fort. Il était très intéressant.
Un sous-marin sans Périscope.
Franchement, c'est un très bon joueur, Aurier.
C'est pour ça qu'il a choisi Villarreal.
Mais il est quand même pas titulaire à Villarreal, faut rappeler.
Non.
Mais parce qu'il est arrivé en cours de route, c'est pas si facile. Ouais. Bon, et dans une équipe déjà
mais
installée. Mais
on a aimé, il a voulu en tout cas.
Mais en tout cas, oui. Puis il a fait, quand il a joué, il a fait des bons matchs.
Mais je trouve que ça correspond un peu au recrutement de, je sais pas si c'est tout Unai Emery, mais les Coquelin, les Capou, les Aurier, ça correspond un peu.
C'est comme une seconde chance. Il relance des joueurs qui peut-être.
Un peu comme certains clubs.
Un classique de Villarreal,
par exemple.
Un classique de Villarreal, un classique de Séville, absolument. De clubs qui n'ont pas des budgets monstrueux, c'est pas si énorme que ça. Hein.
C'est ça l'intelligence.
C'est là où ces clubs qui sont très très performants parce qu'ils arrivent à faire des performances européennes de haut niveau. Ah ouais. Alors finalement, ils ont moins que le budget de Marseille. Hein.
J'aimerais bien Robert Pires finir sa carrière.
Je vous le dis. Hein.
Bah Robert Pires, c'est justement lui qui aimait beaucoup Violetta. Alors, je ne sais pas si c'était Violetta ou seulement la chanson. Philippe, on parlait tout à l'heure.
Annie connaît les dossiers. Annie a les dossiers. On verra ça hors émission.
Je parlais de la limite physique en parlant des Reds tout à l'heure. On le sait, ils sont toujours en course pour remporter 4 trophées. Pour l'instant, ils en ont remporté un. C'est la League Cup anglaise. Il en reste 3. Aucun club anglais ne l'a fait, donc c'est un petit peu la carotte en plus. Jürgen Klopp fait semblant de ne pas y penser. En même temps, évidemment, lui qui vient de re-signer à Liverpool, c'est toujours important d'avoir un record comme ça établi. Est-ce que vous voyez en ce moment des faiblesses physiques chez cette équipe qui, par ailleurs, dans le championnat, arrive à tenir le rythme et toujours accroché à un point seulement de Manchester City.
Non, je ne vois pas de faiblesse physique. Je vois des joueurs et un entraîneur qui sont conscients qu'il est important de gérer Donc parfois ils ont calculé, parfois ils ont joué moins vite que d'autres fois. En championnat, on les a vus parfois faire des matchs.
On a vu au match aller, il a sorti certains joueurs, on se souvient de Mané et tout. Pour
le championnat en plus.
Exactement.
Oui, parce que le championnat d'Angleterre est hyper important. Il ne faut pas croire que ce genre de club se dit « bon, c'est pas la Ligue des Champions, c'est prioritaire ». Non, c'est, là-bas, ça n'existe pas. Donc le championnat est essentiel. Il y a un point d'écart, donc il n'était pas question de ne pas gagner à Newcastle ce week-end, parce que Liverpool sait que de toute façon, pour être champion, il faut faire le plein. Ils peuvent pas faire autre chose que gagner tous les matchs, parce que City lâchera peut-être un nul, mais ils savent pas encore où d'ailleurs. C'est même pas sûr. Donc ces deux clubs sont tellement énormes, ces deux équipes sont tellement énormes, et donc je vois pas d'usure.
Il y a plus de bons à City quand même.
Je vois pas d'usure du côté de Liverpool. Je vous rappellerai pour ceux qui sont un peu jeunes et qui pensent que c'est on gagne toutes les compétitions parce qu'on fait énormément de rotations. Je rappellerai que dans un ancien temps, on ne faisait aucune rotation et ça n'a pas empêché des tas de clubs de gagner peut-être pas de 4, mais de gagner au moins 3 titres. Ça n'a jamais empêché Guardiola avec Barcelone de gagner 6 titres dans l'année. Sur une année, c'est
comme
plus facile
Bayern.
Parce qu'elle est
super cool. Tu parlais
de Gerouille, on a gagné 5 une année.
Une année avec Liverpool, oui. 4 je crois, non, parce qu'il n'y avait pas le titre de champion. Il n'y avait pas le titre de champion.
Aucun club anglais n'en a gagné 4
Non. Alors c'est là où le record a quelque chose d'un petit peu magique, c'est que les Anglais, ils sont jamais arrivés. Et plein de clubs se sont retrouvés comme ça, à deux pas, c'est à deux doigts. Il manquait la finale de la Cup, soit le championnat la dernière journée, soit la Ligue des Champions. C'est arrivé à Manchester United, c'est arrivé plein de fois. Donc finalement, évidemment, ce record est entouré d'une certaine magie du côté de l'Angleterre. C'est un vrai record, celui-là.
Voilà. C'est pas des petits titres, en fait.
C'est très dur en Angleterre, évidemment.
Championnat d'Angleterre, pour l'instant, il est en lice encore pour le championnat d'Angleterre, pour la Cup anglaise, la Coupe anglaise et pour la Ligue des Champions.
Il y en a qui ont tout perdu dans cette situation. Il y en a qui ont tout perdu.
Au moins, il les joue. Quoi. Oui. Il va tout perdre.
Il joue à fond.
Exactement. Juste la première ligue, déjà, c'est quelque chose de compliqué. Donc, tu rajoutes tout ce qu'il y a derrière.
Le train d'enfer de ces deux équipes.
En tout cas, Nice est un modèle culturel pour la France, ce que fait Klopp, parce qu'en France, on se plaint. Dès qu'on joue le jeudi et le dimanche, alors lui, il ne joue pas le jeudi.
Même Guardiola,
il joue le mardi et le mercredi.
Mais en France, si vous n'avez pas 157 joueurs, l'entraîneur se plaint d'un calendrier surchargé.
Même les présidents se plaignent comme s'ils avaient déjà joué au foot.
Alors qu'il n'y a plus de Coupe de la Ligue.
Voilà, ça c'est culturel. Et moi, j'entends jamais Klopp se plaindre. Moi, je vois un entraîneur qui, sitôt la finale de la CAN passée, il met Salah et Mané, il joue. Alors, excusez-moi de revenir au PSG, mais je vois Pochettino attendre que Gueye récupère pendant 3 semaines, 1 mois avant de réutiliser Gana Gueye. Or, c'était le même qui était en finale avec Mané.
Et champion d'Afrique.
Donc je ne comprends pas. Mais bon, chacun ses raisons. Mais moi, je vois un entraîneur allemand qui surperforme avec Liverpool, qui gagne tout, qui joue tout. Et donc, je me dis, peut-être sur les 4, il va peut-être en gagner un quand même. Et je vois un entraîneur qui, lui, n'aura gagné que la Ligue 1. Et je pense que c'est plutôt l'entraîneur allemand qui a raison et pas l'entraîneur argentin. Donc j'en ai marre un
Guardiola
peu.
Guardiola a fait une déclaration cette semaine en disant on se plaint de rien, c'est comme ça. Sinon je vais entraîner
au Maldives.
Sinon je vais entraîner au Maldives. J'accepte pas d'entraîner Manchester City.
Mais Philippe, lui, il a quand même alors.
Non, il a beaucoup de joueurs.
Je veux pas minorer, mais
l'esprit du foot, c'est ça. Après, bien sûr qu'il est intelligent, il fait des rotations et autres. Mais
il faut.
Mais du temps des grands clubs anglais, quand Liverpool gagnait 3 épreuves par an sur 4. Mais ils utilisaient 11 joueurs à l'époque. Ils jouaient sur 11 joueurs. Le Barça de Guardiola, il a utilisé 15 joueurs. Il jouait sur 15 joueurs en 2011. 2011, le Barça de Guardiola, ils font une saison extraordinaire, ils gagnent tout. Ils utilisent 15 joueurs. Mais c'est possible.
Eric, on disait qu'ils ont du banc. Mais par exemple, en ce moment, quand Jürgen Klopp fait jouer Naby Keïta, c'est très bon même pour Liverpool. On sait qu'il avait été longtemps embêté par des blessures et cette saison est sans doute la meilleure.
Si on compare à Manchester City, je trouve que Liverpool a moins de bancs que Manchester City maintenant.
Mais malgré tout,
tout est relatif.
C'est une dynamique. Voilà. Tout est relatif.
Luis Diaz qui vient d'arriver.
Luis Diaz, j'adore. Luis Diaz, Diogo Jota, qui était déjà contre
Villarreal. Il y a toujours Firmino.
Il y a du monde pour remplacer ceux qui vont être préservé par rapport à la répétition des matchs, forcément. Salah et Mané. Voilà, vous récupérez Van Dijk qui a été blessé longtemps, ça veut dire qu'il récupère aussi, ça veut dire qu'il n'est pas complètement. Il n'a pas fait toute une saison, donc il va avoir un peu plus d'énergie que les autres pour finir aussi. Donc voilà, il y a. ça avec aussi, Konaté qui est arrivé aussi au milieu de.
Donc, ça aussi, c'est la touche Klopp, c'est-à-dire qu'il a amélioré le banc. C'est-à-dire que avant, il y avait Shaqiri, par exemple. On l'a vu passer par Lyon, ça n'a pas duré longtemps. Et les remplaçants aujourd'hui, même si. Bon, Firmino, il n'était pas remplaçant, mais il est devenu remplaçant. Mais c'est plus fort. Alors, ce n'est pas le même poste, c'est pas un joueur. Mais voilà, il a amélioré aussi les remplaçants. Et donc, quand ils arrivent, quand ils viennent, quand ils sont dans la rotation et quand ils s'imposent, comme les Luis Diaz et les Diego Jota, bah, tout de suite, ça améliore ou ça ne fait pas descendre le niveau de l'équipe, quoi.
Complètement.
Bah, Konaté derrière aussi. Hein. Il est jeune, totalement. Il arrive, il a réussi à trouver un complément à Van Dijk.
Il marque de la tête.
Et en plus, il est décisif sur certains. Ouais,
bon, comment ne pas les imaginer en finale, ces Reds ?
C'est dur. Hein.
C'est surtout qu'on a un petit peu envie de voir, le, je sais pas, ou Real ou Manchester City contre Liverpool en finale. Maintenant, je souhaite bonne chance à Villarreal.
Et aussi à Chelsea.
Et aussi à Chelsea.
On continue et on va s'intéresser, eh bien, aux filles, les filles qui gagnent.
Le centre de Bacha, but, le but de l'Olympique Lyonnais. Quel ballon incroyable de Selva Bacha et quelle tête derrière d'Ada Hegerberg. Avec Delphine Cascarino, le centre de Cascarino, Melvin Mallard et le deuxième but de l'Olympique Lyonnais. Et c'est terminé. L'Olympique Lyonnais ira bien à Turin et l'Olympique Lyonnais ira bien à la poursuite d'un 8e titre.
Les reines lyonnaises sont donc de retour au premier plan. Elles seront le 21 mai à Turin face aux filles du FC Barcelone pour leur 10e finale de Ligue des Champions, un club qui en a déjà remporté 7. Les lyonnaises se sont qualifiées en remportant leurs 2 demi-finales. D'abord un 3-2 à l'aller, c'était sur les bords du Rhône, et un 2-1 au retour près de la Seine. La fête dans les vestiaires des filles, les tribunes étaient donc pleines au Parc des Princes, 43 000 spectateurs, c'est un record. D'habitude pour les garçons c'est plein toutes les semaines, ou tous les 15 jours, et en l'occurrence là, eh bien, pour les filles c'était la première fois. L'autre fois il y avait eu 25 000 personnes, parce que le Barça c'est plus de 91 000.
Un peu explosé le baromètre, oui. Quand même.
Ils avaient 80 000, relevé
80 000. Pour la France, 92. C'est un record de loin.
Ouais, c'est ça, ouais, de très très loin. C'était 25 ou... Bah déjà le match avant, c'était 29 je crois. 29 contre le Bayern.
25 000 il me semblait.
Un peu plus. Et à Lyon, il n'y a jamais eu...
Oui, c'est ce que je me demandais, parce que Lyon, c'est 55 000 places.
Ils ont joué au Parc OL plus d'une fois, au Groupama.
Elles ne doivent pas remplir véritablement. Ouais. En tout cas, l'ambiance était celle des beaux jours.
En fait, c'est un double facteur.
Est-ce que c'est le même public?
En tout cas, pour ceux qui mettent l'ambiance, c'est le CUP. Ils mettent un point d'honneur à montrer... en soutenant les filles de manière presque extravagante et exagérée, à quel point ils détestent les hommes en ce moment. La section masculine, ils l'ont toujours fait, donc on peut pas les soupçonner
d'être du jour au lendemain de se rabattre sur les filles.
Elles ont été finalistes,
ils ont toujours aimé les filles, ils ont toujours aimé les défendre à l'étranger, aller les attendre à la fin de l'entraînement, mettre des fumigènes, mettre de l'ambiance, donc ils sont pas soupçonnables de découvrir une nouvelle passion. Mais en revanche, il y a une démonstration de force pour montrer à quel point en ce moment ils sont fâchés avec les garçons et ils ont envie de faire grève et de tourner le dos et de ne pas être content, et que ça bouge et que ça change parce qu'ils en ont marre.
La différence aussi, c'est que le stade a bien suivi en fait. C'est pas toujours le cas avec les garçons. C'est-à-dire que voilà, on a un public un peu différent. Là, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de familles. Donc,
c'est plus familial.
Du coup, ça répond plus sur les sollicitations du CUP pour se lever, franchement, c'est vrai, sur tous les matchs que j'ai vus, là, c'est la première fois que je vois tout le stade se lever au moment où le CUP demande le parc debout. Tout le monde était debout pour chanter. Donc, c'est aussi un signe.
Voilà.
Oui.
Vous n'êtes pas allé voir les filles, vous, Philippe?
Non, j'étais sur un match de garçons.
À Charletti.
À l'ancienne. À Charletti,
justement. Charletti, c'est pas un stade de foot.
Non, mais il y avait un match de foot.
Alors, en tout cas, pour les Lyonnaises, eh bien, ces deux victoires, et notamment celle au match retour aussi, étaient rassurantes. Et c'est ce que dit la défenseure, auteure des deux passes décisives dans ce match, Selma Bacha, au micro de Fred Suto.
Très heureuse pour la qualification. En plus, Paris, c'est une équipe très dure à jouer, en plus chez elle. avec un super stade magnifique, des supporters aussi top. Mais maintenant, on a fait le boulot. Il reste encore la finale à aller chercher. Et c'est une année de reconquête. Bien sûr, ça me fait plaisir d'aller en finale et encore plus contre Barcelone parce que c'est vraiment une bonne équipe. Elles ont beaucoup de qualités, mais on a les qualités pour aller, entre guillemets, reprendre ce trophée-là.
Et oui, reprendre le trophée après 5 titres consécutifs. Les Lyonnaises avaient été sorties en quart de finale l'an dernier. Est-ce qu'elles marquent leur retour ferme sur la scène européenne, Eric ?
Elles sont assez impressionnantes parce que quand on regarde le match contre Paris... Alors elles sont plus équilibrées que Paris. Ça c'est une vraie grande différence. C'est surtout le côté offensif où quand elles jouent les phases offensives, elles sont beaucoup plus précises que les Parisiennes. Les Parisiennes ont peut-être eu de meilleures intentions que les Lyonnaises sur l'ensemble du match, mais dans l'efficacité et dans la maîtrise, je trouve que les Lyonnaises elles ont plus d'expérience, plus d'habitude,
aussi. Ouais, peut-être ça fait très longtemps.
Elles ont souffert quand même. Hein. Les Lyonnaises ont souffert. Mm-hmm. Les Parisiennes ont eu les occasions pour faire la différence. Elles n'ont pas fait la différence. C'est ça aussi. Ouais. C'est qu'à la fin, voilà, vous êtes en demi-finale de Ligue des Champions. Pour accéder au-dessus, il faut être décisif. Et là. Les Lyonnaises ont fait parler l'expérience, ont été solides. Il y a eu des très très bonnes joueuses du côté parisien, comme Gueyoro, qui a été très très forte sur ce match. Mais après, voilà, l'expérience, la maîtrise et puis l'envie aussi d'aller en finale et de reprendre le titre.
Alors justement, en finale, elles vont se retrouver face au Barça, le FC Barcelone, c'est championne dur, hein, en titre. Hein. Elles avaient remporté le titre l'année dernière, si je ne me trompe pas, face aux Parisiennes, il me semble, en finale l'année dernière.
Non.
C'était pas l'année dernière ? Si, il me semble que c'était l'an dernier.
Les Parisiennes étaient en finale, vous êtes sûr ? Je crois pas. Hein.
Bon, alors. C'était pas des Allemands. En tout cas, elles ont conquis donc ce titre l'année dernière. La Norvégienne de Lyon, Ballon d'Or, on s'en souvient, premier Ballon d'Or féminin, Ada Hegerberg, a hâte d'y être à cette finale.
C'est un grand rendez-vous. Le FC Barcelone est incroyablement bien cette saison. Ça va être un tout autre match que celui face à Paris. Maintenant, il nous faut bien récupérer et bien préparer ce rendez-vous. Je dois dire que disputer une nouvelle finale est quelque chose de très important pour nous et nous avons vraiment tous hâte d'y être.
Le Barça, est-ce que c'est face à ce peut-être OL retrouvé, Philippe ? Est-ce que c'est une force nouvelle, le FC Barcelone ? On a vu qu'ils avaient beaucoup misé là-dessus, par exemple, plus que le Real Madrid, pour l'instant. L'Atlético a plus misé sur le foot féminin en Espagne. L'OL, en tout cas, n'a jamais perdu face au Barça pour l'instant.
Oui, mais je pense que cette fois-ci, le Barça sera le favori, d'abord parce qu'ils ont gagné.
Alors, ils avaient gagné
l'année dernière.
Et puis, contre Chelsea. Hein.
Et puis, qu'il y a une véritable émergence européenne du foot, enfin, peut-être mondiale d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, les grandes Europes se mettent au football. Aujourd'hui, les plus gros budgets, c'est en Angleterre qu'on les trouve. Mm-hmm. Les clubs anglais sont en train de mettre des budgets considérables. L'OL a un grand
Chelsea,
mérite,
City,
parce que Jean-Michel Aulas, en plein Covid, en stratège qu'il est, parce qu'il a, c'est quand même, on peut lui reconnaître, c'est peut-être une période un peu difficile pour son club, notamment côté masculin, mais en grand stratège, quand il y a eu le Covid et toutes les difficultés budgétaires, parce que c'est en centaines de millions qu'un club comme l'OL a perdu, il a dit, attention, on ne touche pas au budget du football féminin, on est resté à 10 millions, on n'a pas touché, et ça fait la différence,
bien
ça
sûr.
Fait qu'on a renouvelé l'équipe. L'équipe s'est quand même rajeunie. Il y en avait beaucoup qui avaient gagné énormément. Vous avez rappelé les 5 titres consécutifs. À force de gagner, c'est à la fois difficile de regagner et puis c'est difficile de changer l'équipe à ce moment-là parce que quand on gagne la Ligue des Champions, on est tout le temps championne. Et malgré tout, ils ont su le faire.
Wendy Renard est encore là. Amandine Henry est là.
Oui, oui, oui.
Il y a encore quand
mais
même
il y en a qui jouent moins quand même.
Ce...
Il y en a qui jouent moins. Bouadi joue plus dans les buts, enfin, etc.
Oui.
Mais
il y a
encore quelques anciennes qui jouent quand même assez régulièrement. Il y a 4 joueuses formées au club, si on compte Wendy Renard. Donc c'est encore une politique quand même qui fonctionne, qui marche. Mais aujourd'hui, Lyon n'est plus le grand d'Europe. Et dans leur mentalité, d'ailleurs, vous parlez avec les gens de l'OL, ils se disent bon, bah, on est ravis que d'autres nous aient rejoints sur la piste du football féminin, mais il faut qu'on s'attende à plus gagner. On est ravis d'être en finale, évidemment, mais il faut qu'on s'attende à plus forcément gagner parce que Barcelone est arrivé, parce que les Anglais sont arrivés.
Il y a une nouvelle concurrence.
Et que maintenant, il y a une nouvelle concurrence, mais c'est pour le bien du football féminin. Hein,
mais je crois à la force de l'institution que tu décris. Je crois à cette permanence au haut niveau grâce à ces efforts.
La preuve,
pionniers.
Elles sont en finale. Elles ne sont peut-être pas la deuxième équipe d'Europe en qualité. qualité, mais elles sont en finale encore cette saison.
Et ils sont pionniers, Olas est pionnier, il a fait ça il y a très longtemps.
Absolument.
Et quand tu dis que les Anglais aujourd'hui investissent massivement, parfois je me demande si c'est entre guillemets pour faire bien ou si c'est sincère. Moi, chez Jean-Michel Olas, je sais que c'est sincère, je sais qu'il a voulu faire ça. Et je sais que quand tu dis que pendant le Covid, il a dit on coupe pas les... Ouais. Parce qu'il y croit en fait, c'est pas cosmétique.
Oui, c'est vrai.
Et j'aimerais que
après, il y a des résultats en plus.
Et j'aimerais que tous ces clubs qui se développent dans le monde, notamment en Angleterre, ça soit pas pour des raisons de se faire...
D'image.
Ouais.
Alors deux réponses. D'abord, en France, malheureusement, plein de clubs ont baissé leur budget féminin. Montpellier, Bordeaux... j'en oublie.
Bordeaux, ils font toujours du foot
Ils font du foot féminin, mais ils ont baissé leur budget.
Ils ne l'ont pas mis sur les hommes.
Si les Anglais mettent pas mal d'argent sur le foot féminin, c'est aussi parce qu'il y a une fédération en Angleterre qui a mis le paquet sur le foot féminin, à la différence du football français. C'est-à-dire qu'elle a obligé les grands clubs...
La FIFA, théoriquement, met la pression.
Non, mais les Anglais ont obligé les grands clubs à créer leur section féminine et à mettre de l'argent. Elles les ont obligés. La fédération les a obligés. Alors qu'en France, on a beaucoup de sympathie et d'admiration pour ce que font Soyot, ici les Moulineaux, Fleury... Non, Juvisy est devenu le Paris FC.
Ah,
mais Fleury et autres qui sont en D1 féminine, c'est admirable, bravo, mais quelque part, c'est pas normal. La Fédération française aurait déjà dû, alors peut-être d'ailleurs, s'arrimer à ces clubs-là. Soyot aurait peut-être dû
donner un coup de main, c'est
dû
ça.
Se mettre
Exactement.
Avec un club professionnel et autres. Comme le Juvisy l'a fait avec le Paris FC, et puis monter en gamme, c'est parce vrai. Qu'on doit développer le football féminin, et malgré tout, les locomotives, ça doit être des grands clubs, et bravo à l'OL pour l'avoir fait depuis 10 ans au moins.
D'avoir été visionnaire.
Plus franchement, ce match PSG-OL est une vraie bonne vitrine pour le football féminin, parce que ça a été un super match, le jeu, dans l'engagement, dans le rythme. Ça a été vraiment impressionnant par rapport à ce que moi j'ai pu connaître avant sur les matchs que j'ai vus. Là, vraiment, c'était impressionnant, c'était super sympa. Il y avait entre l'ambiance et la performance sur le terrain, c'était vraiment un beau mélange. Juste pour parler de Paris en termes de féminin, je trouve qu'eux mettent des limites par rapport à Lyon. C'est-à-dire qu'il y a un barème de salaire, qu'ils ne peuvent pas aller au-dessus. Si tu as tant, t'es dans une fourchette de salaire. Ça, tu ne peux pas réfléchir comme ça sur un... Si tu veux développer, surtout quand tu as les sous. Quand tu n'as pas les sous, je peux comprendre que tu essaies de t'adapter. Mais là, quand tu as les sous, je pense que tu peux mettre un peu plus d'argent.
Alors que Jean-Michel Aulas l'a fait.
Mais pourquoi pas? Mais pourquoi ils ne le font pas chez les hommes? Pourquoi il y a deux poids, deux mesures? Moi, ça ne me dérange pas qu'ils le fassent chez les femmes. Mais pourquoi ils ne le font pas chez les hommes? S'ils mettent une barrière de salaire chez les femmes, tu dois le faire chez les hommes. Un club, c'est le même modèle pour les hommes et les femmes. C'est incompréhensible. Ce que tu viens de dire là montre à quel point le PSG n'est pas un club.
Ils ne sont pas prêts, en tout cas, à développer comme il faut les choses.
Qu'ils choisissent. Ou ils ne mettent pas de plafond, ou ils mettent un plafond. Surtout ils font ce qu'ils veulent, mais ils la mettent aux hommes et aux femmes.
On se souvient des coups marketing, entre guillemets, mais que fait Jean-Michel Aulas quand il fait venir les meilleurs des États-Unis. Comme Morgan. Voilà, exactement.
Ada Egerberg.
Egerberg ou une autre américaine aussi. Je crois qu'elle était venue.
Clara Morgan.
Oui. Non, mais.
Meghan Rapinoe.
Non, parce que Rapinoe.
Clara Morgan, c'est autre chose, Philippe. Nous, on ne veut pas connaître vos soirées. Mais Meghan Rapinoe, c'est autre chose.
J'ai fait un lapsus.
On sait ce qu'il regarde maintenant le soir chez lui.
J'avoue, franchement, visiblement. Je ne l'ai pas vu jouer. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais franchement.
Plus. Mais je ne la connais pas. Mais
je l'ai déjà vue dans un stade.
Philippe, nous ne voulons pas savoir. Vous savez, on ne veut rien savoir.
Elle était là le soir. Tes soirées t'appartiennent.
Elle est marseillaise.
Elle a un coup d'envoi, non?
Non, mais vous ne rappelez pas l'histoire. Lorsque le vestiaire du Paris Saint-Germain avait été. Chloroformé, enfin il y avait du.
Oui, il y avait un liquide amiant.
Un liquide vagin. Et Clara Morgan passe devant le vestiaire à ce moment-là.
Ah bon,
vous vous rappelez pas de cette histoire?
Bon, c'est possible.
Une grande chose, Clara Morgan. Bon, comment elle joue? Mais vous m'embêtez. Comment elle joue, l'américaine Morgan?
Mais Meghan Rapinoe?
Non.
Non, mais Meghan Rapinoe, elle est venue à l'OL aussi.
Ah oui, non, mais je pensais pas à elle.
Alex Morgan.
Alex Morgan, qui était à la Coupe du Monde.
Qui était la meilleure joueuse en 2019.
Et qui sont championnes du monde.
Je me suis trompé d'un prénom, c'est pas énorme.
Non, vous pardonnez.
Mais puisqu'on parle salaire et autres, sachez ce que je vous disais tout à l'heure, que l'OL n'est plus le club qui va attirer les meilleurs. L'équipe de l'OL va perdre deux joueuses l'année prochaine. Et elles sont en fin de contrat, et c'est Buchanan notamment, qui est une remarquable joueuse, elle va aller à Chelsea parce que les salaires ne sont pas les mêmes. L'OL ne peut pas s'aligner sur les salaires que ces deux joueuses vont demander à des clubs anglais.
Bon, mais ils ont déjà de l'avance, cette trophée dans l'armoire, je pense que...
Oui, ça, de ce côté-là, ils vont avoir du mal à être rattrapés, ça prendra du temps.
On termine sur l'Italie.
Léon dans la surface, Léon, la frappe et le but. L'ouverture du score pour la Sévillan, signé Raphaël Léon.
Martinez face à Marco Silvestri. Et Martinez sur le poteau.
Oh, deux fois.
Martinez, le coup de tête.
Il faut s'en remettre.
Bien sûr. Et on est ici.
Ils ne se quittent plus, ces Milanais, comme en Première Ligue où les deux leaders ne se lâchent pas. Avec un point d'écart en Angleterre, et bien en Italie, il y a toujours deux points entre Rossoneri en tête et Nerazzurri qui sont leurs dauphins depuis quelques journées déjà. Et on en est à l'issue de la 35e journée. Les deux équipes se rendent donc coup pour coup. Le Milan a battu la Fiorentina au cours du week-end, 1-0, vous l'avez entendu. Et puis l'Inter l'a emporté à Udinese 2-1. Perisic et Lautaro notamment ont marqué. Le Milan entrevoit le Scudetto qu'ils n'ont pas remporté depuis 2011. Comme le montre, écoutez-le, c'est amusant, ce commentateur du club. Hein, alors là, il est étiqueté Rossoneri, empli d'émotion et de passion en fin de match lors du but de Raphaël Léon à la 82e minute.
Ibra corre su Terracciano, lancio lungo di Terracciano che sbaglia. Leao, il tiro. Gol! Gol! È il momento più bello del mondo! Gol! È il momento più bello del mondo! Milan ti amo! Milan ti amo! Milan! Milan! Palla dentro, Maignan! Maignan l'ha presa! È finita! È finita! È il momento più bello dell'anno, San Siro!
Un des moments les plus beaux.
Hein. Après ce qu'il dit, c'est fini.
Hein. Non, finita la partie, t'as seulement ce match-là.
Comme Capri.
Mais, mais c'est assez drôle de le voir à l'image où il pleure à la fin du match, où il regarde le ciel. Enfin bon. C'est parce que, Dominique, selon vous, cette émotion, je ne sais pas si vous la ressentez quand vous regardez le PSG, mais est-ce que c'est parce que c'est 11 ans d'attente pour ce club qui a vécu évidemment les très belles années de l'époque Berlusconi?
Ah bah oui, oui. Puis c'est un club...
Oui, puis il a l'âge pour ça, c'est-à-dire c'est un monsieur déjà, il doit avoir une soixantaine d'années.
Je vais enchaîner les poncifs. L'AC Milan, c'est un des plus grands clubs du monde avec le Real. C'est un morceau d'histoire du football, c'est un mythe. Et 11 ans sans titre, c'est une anomalie du football. Alors après, quand on gère mal des clubs et la fin de Berlusconi, c'était n'importe quoi. Donc forcément, il y a toujours un moment donné où on est menacé un peu, pas de disparition, mais on a des trous, des creux qui peuvent durer des années. Et donc là, bon, ils ont que deux points d'avance, hein, donc le suspense, il est total.
Il reste trois journées.
Mais oui, ils sont en train de toucher enfin, quoi, 11 ans après. Quoi.
Philippe, justement, cette équipe, quand même, 11 ans d'attente, mais dans un contexte. Alors en 2011, c'était déjà sans doute différent, mais je veux dire, par rapport aux années Berlusconi, c'est moins clinquant, c'est moins.
Oui, bien sûr.
C'est beaucoup plus.
C'est plus équilibré dans la jeunesse.
C'est plus un projet sportif, je dirais que. Enfin, sportif dans le sens, c'est plus sur le talent. Le talent des jeunes, notamment, hein, que l'entraîneur peaufine
avec
depuis plusieurs
années. Avec le talent des plus anciens aussi. Hein.
Voilà, avec l'aide, bien sûr, il y a Zlatan et Giroud, on n'oublie pas. Mais c'est vrai que c'est un autre projet que l'époque plus...
Ah mais non, mais il y a eu une époque où Milan pouvait se payer le meilleur joueur du monde et ne s'en privait pas, même s'il y a toujours eu quand même... Parce qu'on est en Italie, il y a toujours eu un côté collectif, il y a toujours eu une construction autour de quelques joueurs italiens fondamentaux, les Baresi, etc., etc. Donc ça a duré quand même
tactiquement, ils ont
une
été,
longue...
Ils étaient
en avance tactiquement avec Sacchi notamment, et ça a été complété ensuite par Capello. Mais donc ça, c'est toute cette culture-là, elle est restée. Ça reste, mais il n'y a plus les joueurs d'antan, bien évidemment. Et je pense que malgré tout, que ce titre, si le Milan l'obtient, ça va être une fête absolument incroyable pour ce club. Tout le monde est conscient ils ne sont pas dupes. Hein. Ils voient bien qu'en Coupe d'Europe, ils n'arrivent pas à des résultats phénoménaux. Exact. C'est le moins que l'on puisse dire.
Mais
ils ont été
plus,
éliminés dès le premier tour cette année. Ça a été assez vite. Et ils ne sont plus à ce niveau-là, bien évidemment. Mais c'est pour eux, le titre italien serait une confirmation du retour tout à fait exceptionnel. L'ambition reviendrait avec.
Alors les Napolitains qui espéraient et qui étaient bien partis en début de saison ont été décrochés, mais Luciano Spalletti, l'entraîneur justement de ces Napolitains, a une bonne explication. Il estime que ce championnat reste très dur.
Et questo non è un campionato più facile degli altri.
La Serie A n'est pas un championnat plus facile que les autres, c'est même plutôt l'inverse. Car les équipes de seconde partie de tableau, celles qui luttent, eh bien, elles sont déterminées, elles ont un bon niveau de football, elles ont de grandes qualités pour rester dans l'élite. Et je peux vous dire que ce n'était pas vraiment comme ça les années précédentes. C'est pour ça que beaucoup d'équipes qui jouent pour les places en Ligue des Champions ont de gros problèmes cette année. Regardez l'Atalanta par exemple.
Tanti anni che erano dentro la Champions come l'Atalanta e come altre, ecco.
Eric Rabessandratana, c'est difficile la Serie A, mais est-ce que c'est aussi peut-être différent parce que la Juventus, qui avait aligné ses 9 titres tout d'un coup, c'est la deuxième saison qu'ils ne sont plus vraiment en tête, et du coup c'est plus ouvert peut-être, et comme le dit Spalletti, chacun essaye de s'en sortir.
Ouais, mais c'était pas aussi facile que ça. Il y a quand même entre Naples et la Juventus, oui, ils sont un peu moins fringants, mais ils ne sont pas très loin. En fait, il n'a pas manqué énormément.
Bah du coup, ils ont acquis au cours du week-end avec leur victoire leur ticket pour la Ligue des Champions l'année prochaine.
Ils ne sont pas très loin non plus. La Juve, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, a fait un début de saison
très positif. D'ailleurs, ils ont très vite dit on oublie le Scudetto
ils étaient très très loin.
Objectif 4e et ils seront 4e ou 3e.
Ils seront 4e vraisemblablement.
Peut-être 3e. Après, Milan a fait une belle saison. Je trouve que le mélange jeune et joueurs d'expérience a bien fonctionné. L'Inter c'est quand même une machine à marquer. Il marque pas mal de buts.
Et champion sortant.
Et en plus, donc
Lautaro Martinez.
Je crois que le classement est normal aujourd'hui. Maintenant, ça va être dur jusqu'au bout. L'Inter va pas lâcher.
C'est un championnat, Annie, qui a fait sa révolution culturelle il y a quelques années. Parce que pour moi, en tout cas, qui ai grandi dans cet esprit-là, l'Italie, c'était un championnat fermé, un peu catenaccio, tout ça. Et depuis quelques années, c'est vachement sympa de regarder le championnat italien. C'est ouvert, il y a des buts, c'est spectaculaire. Pas chez toutes les équipes.
Quand il parle de l'Atalanta, c'est vrai que ça a été vachement sympa.
Il y a une génération d'entraîneurs qu'on ne connaissait pas avant.
Exactement.
Et donc, on a cité Sacchi tout à l'heure. Donc, c'est pas hier que le championnat italien s'est transformé.
Après, si tu fais
une trentaine d'années, d'autres influences sont arrivées, Arrigo Sacchi.
Il était redevenu un peu pénible. Non, mais Sacchi, c'était un génie.
Après, ils ont évolué.
L'impression. Je pense qu'il y a quand même eu une évolution depuis Sacchi. Mais c'est vrai que les années de plomb, si j'ose dire, avec la domination de la Juve, de Allegri et autres, n'était pas super fun. Donc, effectivement, on a eu la sensation que l'Italie était revenue à son catenaccio, mais c'est pas le cas.
Écoutez, ce petit document sonore, c'est notre grand Olivier Giroud.
It's Olivier Giroud. I'm offering a signed shirt for an online auction for raising money in order to help the Ukrainian
refugees. À comprendre, c'est pas de l'italien là. Qu'il parle grâce à sa grand-mère. Mais en fait, c'est Olivier Giroud qui met son maillot du dernier match dédicacé. Il le met en vente et aux enchères, et ce sera au bénéfice de, il le disait lui-même, des 3 millions d'Ukrainiens réfugiés en Pologne. D'ailleurs, au cours du week-end aussi, c'était le 1er mai, la Gazzetta dello Sport avait mis Giroud en une en mettant le diable d'Olivier Giroud, attaquant providentiel du Milan AC. Donc, quand on parlait d'expérience.
Bien sûr, parce que lui, c'est un fervent croyant en Dieu. Alors, il ne faut pas lui dire que c'est le diable.
C'est le diable rouge.
Et pourtant, ils l'ont mis avec un trident et tout. Donc, on verra s'il a apprécié la une. Mais le lien entre le Milan AC et l'Ukraine, j'imagine que c'est aussi autour de Shevchenko. Il y a aussi ce souvenir, et que donc il y a ce geste personnel ou du club, en tout cas d'Olivier Giroud. Merci beaucoup messieurs d'avoir si bien animé Radio Foot International.
On a appris les soirées de Philippe.
Merci Philippe Doucet. À demain.